Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
C'est à un registre le plus souvent comique que fait appel cet ouvrage composé de nouvelles. Tour à tour se succèdent l'humour, la parodie, le burlesque, la caricature et le vocabulaire lui-même est de la partie, que ce soit dans l'emploi et le choix des mots qui amusent ou déconcertent. On rit, on sourit devant tant d'insolence, de dérision, de quiproquos, de jeux de mots. Un jeu, oui, mais pas seulement. C'est aussi une satire de notre société et de nous-mêmes, de nos manies, de nos ridicules et de nos travers. Voici le sans dessus dessous des apparences, édité par Hazard Atelier, et j'ai le plaisir d'accueillir son auteur, Monique Thomière. Monique Thomière, bonjour.
Bonjour Monique.
Alors, la définition d'une personne qui manie l'humour selon un spécialiste dont j'ai oublié le nom, quelqu'un qui s'amuse du monde en même temps que de sa propre personne dans le monde. Alors, est-ce que ça vous correspond ?
Eh bien, ça me correspond, d'autant plus que la définition habituelle, c'est l'humour, c'est se moquer de soi-même. Toutefois, c'est aussi se moquer des autres, mais avec une certaine finesse qui fait que les autres ne se sentent pas blessés.
Voilà, oui, je crois. Je crois que...
Voilà, oui.
Bon, et prendre de la finesse et de la distance également. On parlera de certaines de vos nouvelles qui sont assez sévères, mais justes, je dirais.
Certes.
Et on en parlera. vous savez rire de vous-même.
Oui, il vaut mieux, paraît-il. Mais c'est vrai que quelquefois, je me vois avec un certain recul et je me dis... Qu'est-ce que tu peux être bête? Mais comme je m'aime bien, je me pardonne aussitôt. Et puis je me mets quelquefois en écrit, mais en attribuant mes imbécilités à des personnages tellement ridicules qu'on ne fait pas le rapprochement avec moi.
L'art de se mettre en scène, bravo.
Tout à fait.
Bravo. Alors, est-ce que l'humour, ça peut être aussi un mode de défense? Parce que quand même, ceux qui pratiquent l'humour, il ne faut pas s'y tromper, sont souvent très pudiques.
Oui, enfin, on parle de politesse du désespoir. Bon, sans aller jusqu'au désespoir, c'est vrai que je suis timide. Enfin bon, pas timide, je suis réservée parce que timide, c'est un défaut. Or, je n'ai aucun défaut à part la timidité. Et c'est vrai que dans mes textes, j'ai des personnages qui font ce que je n'oserais pas faire, qui disent leur catevérité à leur chef de service, alors que je l'aurais jamais osé, qui se permettent beaucoup de choses et même au-delà.
Oui.
Voilà,
oui.
Donc c'est une liberté que je ne m'accorde pas et que je donne à mes histoires et à mes personnages.
Oui. Alors, cette liberté-là, alors je l'entends bien, mais c'est également une manière de se protéger des émotions.
Aussi, ça me fait penser un peu à les histoires de Carabin, ces étudiants en médecine qui sont...
Parfois, on trouve ça vraiment très grossier.
Et qui se servent de ça pour se protéger.
Pour évacuer.
Évacuer toute la douleur qu'ils côtoient tous les jours. Et c'est vrai... Que oui, c'est une protection, je ris pour ne pas pleurer. Bon, j'exagère un peu, mais il y a de ça aussi.
Alors, est-ce que votre but, c'est de déclencher le rire ou le sourire? En fait, quand vous écrivez, vous avez cette envie-là?
Bien sûr, j'ai envie, oui, mais il y a aussi autre chose, c'est le fait de faire passer, j'allais dire, mon message, ce que je n'oserais pas dire parce que c'est trop pudique, à qui voulez-vous que je fasse certaines confidences? Alors je les balance dans une histoire, et puis de toute façon, comme on sait que l'écrivain, c'est pas le narrateur, ça tombe bien, et donc je fais passer mon petit message, et je me dis, bon, ben, est-ce qu'il l'aura entendu?
Alors... En même temps, je me dis que de déclencher le rire, c'est une manière de faire du bien.
Aussi, oui. C'est vrai qu'en fait, on dit aussi que le rire est le défoulement d'une angoisse.
Oui.
C'est vrai que ça détend, c'est se dire après tout, si on peut en rire, c'est que c'est pas si grave.
Oui, c'est vrai.
Effectivement,
c'est vrai.
Bon, ça relativise
et
les choses.
Et puis, le rire, quand même, c'est ce partage. Dans le fond, vous partagez votre vision humoristique du monde... Avec les autres, c'est un partage.
C'est un partage. Alors, l'obligation, enfin la nécessité avec l'humour, c'est d'avoir un partenaire. C'est comme le ping-pong, si vous n'avez personne pour vous renvoyer la balle...
Ça tombe à plat.
Ça tombe à plat. Et l'humour, si vous n'avez personne pour comprendre ce que vous envoyez... Et alors, il m'est arrivé, je ne dis pas souvent, mais quelquefois, je crois lancer un trait d'humour particulièrement percutant, et puis au lieu d'avoir un sourire qui se transforme en rire, j'ai... un poil de silence, j'ai un regard qui se fait suspicieux, et puis la question, pourquoi tu me dis ça? Et je sens la vexation. Alors j'essaie d'expliquer, alors allez expliquer un trait d'humour. à quelqu'un qui en est totalement dénué. Alors je m'embourbe et puis je pars à reculons et puis voilà.
Alors j'ai assisté à une de ces scènes, un type de scène, à un dîner où monsieur racontait une histoire assez drôle, peut-être un peu leste, et c'est tombé à plat. Il se penche vers moi, il me dit j'aurais mieux fait de me taire. Et c'est là où moi je suis partie d'un éclat de rire, mais j'en pleurais parce que là ça devenait drôle.
C'était
vraiment.
Ça qui devenait drôle, oui, oui.
Oui. C'est quand même plus facile de communiquer par le rire, dans le fond.
Disons qu'on sait qu'on sera mieux accueilli que... Bon, si je raconte une tragédie, là, bon, oui. On fera semblant de s'y intéresser. On me dira, ben oui, mine compassée. Enfin, bon,
quitte à en rajouter d'autres,
en plus, on vous enfonce. Tandis que, bon, avec le rire, les gens les plus fins comprennent s'il y a quelque chose de moins drôle qui passe. Et les autres peuvent rire. Et donc, avec le rire, on est ensemble, quoi.
Alors, est-ce que vous avez... je sais que vous connaissez une écossaise.
Oui.
Est-ce que l'humour vient des pays anglo-saxons?
Je trouve, alors je pense que vous faites allusion à notre ami Prime.
Oui.
Mais je pense que c'est Prime qui a de l'humour,
oui.
Et pas forcément les Écossais. Mais il y a peut-être une tradition d'un certain humour, on parle de l'humour anglais.
D'un certain regard.
C'est peut-être une façon d'appréhender les choses. Bon, c'est sûr, on parle de la gauloiserie française, c'est une attitude. Puis là aussi, on a des stéréotypes.
Il y a des schémas, oui.
Oui, et puis je me dis, les gens essaient peut-être de se coller à l'archétype. Je suis anglais, donc
Je me dois.
Donc voilà, oui.
Alors... Comment choisissez-vous vos thèmes, Monique Thomière ?
Eh bien, mes thèmes, beaucoup de thèmes, sont choisis non par moi, mais par l'animatrice de mon cher atelier d'écriture, qui s'appelle Martine Imhoff-Marc, et qui nous booste avec ses idées, en nous demandant d'écrire des textes sur n'importe quel thème. Et grâce à cet atelier, je me suis aperçue que je pouvais, et même tous les adhérents de l'atelier, écrire... J'allais dire n'importe quoi. Oui, quasiment ce qui me venait, avec une grande facilité sur n'importe quel thème.
Et une grande liberté.
Ah oui, une grande liberté.
En dehors de l'atelier d'écriture, vous n'écrivez pas...
Si.
Aussi.
Si, parce que bon, j'écris depuis, j'allais dire, la nuit des temps. Quand j'étais petite, j'écrivais...
Non, vous êtes très jeune, allons.
Oui, certes. Je suis très jeune depuis bien longtemps. Enfin, depuis bien longtemps, non, n'exagérons rien. D'ailleurs, on ne demande pas son âge à une dame, donc vous n'en saurez rien. Voilà.
Et la télévision ne marche pas.
En plus... Pourquoi j'ai l'air... Enfin bon, no comment. Oui, donc, j'écrivais de petites histoires sur le modèle du clan des sept, le club des saints, des aventures. Et puis, le temps passant, dès qu'il y avait un événement, un incident, une histoire entre collègues, ça me donnait envie d'écrire un texte où je donnais ma version des choses. Et puis après, j'ai été super boostée par Martine et les amis de l'atelier, où là, vraiment, quelle que soit, la nullité que l'on sorte, elle trouve toujours quelque chose de positif et elle est extrêmement encourageante.
Oui.
Et ça, c'est très important.
Bien sûr, bien sûr. Et en fait, vous disiez que vous écriviez des choses style... Club des Cinq.
Oui.
Mais souvent, des écrivains ont commencé par de la littérature pour enfants.
Oui. Mais ça là, j'étais enfant. Donc, j'écrivais sur les thèmes qui me
déjà
plaisaient
enfant.
Et que je lisais parce que je dévorais Clan des Sept, Club des Cinq, etc. Oui.
Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des thèmes que vous n'aborderez jamais ? Vous n'y avez pas pensé ?
Je n'en sais rien. Non, je n'y ai pas pensé. Ouais, non, je sais pas. Je vois pas. Non, a priori, j'en ai pas qui me sautent aux yeux.
Alors, moi, ce qui m'a frappé dans vos textes, c'est chaque fois les jeux de mots. Alors, vous aimez les manier, les mélanger. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans le premier texte, on sent presque une influence d'un humoriste que j'aimais beaucoup, c'était Raymond Devos.
Oh, alors, si vous avez entendu, il aurait été flatté de cette comparaison. Alors là, j'adore les jeux de mots. Je me dis, enfin, de façon générale, un mot, on l'attrape, on le pose sur une ligne et il ne bouge pas. Point. Tandis qu'avec le jeu de mots, le mot fait ce qu'il veut, on lui donne sa liberté. Alors il fait du trampoline, il fait des cabrioles, il intervertit ses lettres, hein. Il fait ce qu'il veut, il devient vivant et ça donne, il élargit le champ de ce qu'il veut dire.
Tout à fait, vous expliquez très bien. Alors, si vous permettez, si vous êtes d'accord,
certes.
Je vais lire une première nouvelle, mais sans doute que vous aurez autre chose à lire concernant les jeux de mots. C'est quoi le sens? La droite, la gauche, le haut, le bas? Sens interdit, sens interdit? Sens interdit, sans interdit? Si le sens veut dire quelque chose, laissons-le s'exprimer. Pourquoi le questionner au risque de lui couper la parole? Par contre, s'il ne veut rien dire, il faut employer les grands moyens et ne pas hésiter à l'interroger dans le reflet ironique des apparences. Toutefois, méfiance. Les apparences, c'est déjà trompeur. Alors imaginez ce qu'il peut en être de leur reflet, à coup sûr, sournoiserie, au carré. Si en plus le reflet se fout de nous avec son ironie affichée, on n'est pas prêt de trouver la bonne direction. Et nous voilà, fourvoyés dans le labyrinthe au miroir déformant, déboussolés par les échos si peu flatteurs de notre personne. Mais peut-on demander aux apparences de réfléchir avec bon sens? Avec elles, tout est toujours sans dessus-dessous. Aussi, pour éviter de me faire trop de mauvais sang, je m'accroche à mon bon sens et je file où je le sens. Alors là, c'est de la virtuosité. Et d'ailleurs, ça a été le titre de votre ouvrage.
Voilà, voilà. En quelque sorte. Oui, tout à fait.
Oui, oui. Et alors, vous avez continué, alors ultérieurement, à bien des endroits. Mais il y a un texte aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est « La journée liquide ». À la page 77, ce n'est pas très long. Alors, si vous... Voilà, « Journée liquide ». C'était aussi poétique. On en parlera aussi de la poésie dans vos textes.
Certes. Donc, je m'y colle. Très bien. « Journée liquide ». La pluie ricelle, les caniveaux débordent. Je patauge du parking à mon bureau, où je laisse le trop-plein à queue de mes cheveux dégouliner sur le dossier de mon siège. « Journée liquide ». Autant boire un café. 20 centimes dans le distributeur. Et là, rien. Pas une goutte ne crachine dans mon gobelet. L'exception du jour. À condition de payer, bien sûr. Je me coule dans mon fauteuil et connecte mon ordinateur. Ma boîte mail déborde. Les tâches urgentes pleuvent. Les missions cruciales jaillissent. Les dossiers brûlants déferlent. Je prends la tasse. Je me noie. Je sombre. Je suis englouti. Quand soudain, un geyser d'étincelles fuse de la machine. La souris se liquéfie de trouille. Quant à moi, lessivé, je décide de faire la planche en attendant l'éclaircie. Mon horoscope avait raison. Natif des poissons, vous connaîtrez quelques flottements, méfiez-vous des grandes marées et évitez de nager à contre-courant.
Voilà. Alors là, tout y est. Les cheveux qui dégoulinent. Vous vous coulez dans votre fauteuil. Vous vous noyez. Vous êtes englouti. Un geyser qui d'étincelles. Enfin, voilà. Bon, c'est un plaisir aussi. Vous amusez comme une folle, là.
Oui, je m'amuse bien, effectivement. Oui, oui, oui. Puis j'en rajoute. Et puis on y réfléchit, plus ça vient.
Bien sûr. Bien sûr.
Et voilà.
Bon. Alors... je dirais aussi, alors plus sérieusement, qu'il y a une satire sociale. Par exemple, ça m'a frappé ça, la médiatisation à outrance. Il y a une nouvelle, c'est un métier d'homme, autoportrait du philosophe télévisuel. Les auditeurs sauront sans doute le reconnaître, cet homme, dans le style... Alors, on va pas le lire, c'est une nouvelle assez longue, mais vous donnez la définition... De ce métier d'homme, de ce philosophe. Alors, je vais essayer de le trouver. Le philosophe télévisuel que je suis se fait fort de brillamment déblatérer sur n'importe quelle imbécilité. Plus elle est anodine et futile, mieux c'est. Mon art consiste à ne faire de ce rien le problème de société auquel personne n'a pensé. Voilà. Alors, la folie médiatique également, à un moment donné, dernièrement, lors d'un banquet donné en l'honneur de la reine Ragnagna de Poméranie, je demandais fort poliment à ma voisine de droite, n'y voyez aucune connotation politique, s'il vous plaît, passez-moi le sel. Une bombe dans le ciel, tout parisien. Le lendemain, le Figaro titré, le philosophe s'en prend encore aux grandes entreprises, plainte du PDG des salaisons cochonnues. L'humanité s'emballait contre les allusions déplacées d'un pseudo-philosophe au forçat des mines de sel soviétiques. Les nouvelles littéraires, quant à elles, saluaient l'à-propos d'une brillante répartie magnifiant le courage du héros du sel de la mer. Etc, etc. Et là... En fait, c'est très drôle parce que dans le fond, on en est tous conscients de ce qui se passe actuellement.
Oui, effectivement. Enfin, je vois dans certaines émissions un vide. Il n'y a aucun fond. Il y a beaucoup de mots. Il y a peu de sens. Et en fait, beaucoup de mots, peu de sens, c'est la définition que je donnerais de la philosophie. Je hais la philosophie. J'en ai tellement souffert à mon année de terminale. Pour moi, c'était rendre incompréhensible en 6 pages ce qui pourrait être clair en 6 mots. Et c'est vrai que on développe des thèmes, des idées, des pseudo-idées qui, pour moi, ne me parlent pas. Donc, oui. Quand je vois l'un de ces philosophes passer à la télé, je me dis, bon, si tu ne comprends pas, c'est que tu n'écoutes pas. Alors, je me dis, bon, tu vas t'accrocher. Je m'accroche. Et puis, au bout d'un moment, il n'a toujours pas terminé sa phrase, je pense à autre chose, et j'arrive pour la fin de la phrase, et bon, et bien, voilà, et j'en suis là.
Bon. Alors, écoutez, il faudrait peut-être que des philosophes vont vous téléphoner pour vous donner des cours particuliers. Mais sur la télévision, il y a une définition, la télévision est faite pour ceux qui, n'ayant rien à dire, tiennent absolument à le faire savoir. Bon, mais vous n'avez pas dit de la radio.
Ah non, oh là là, certes non, surtout pas les émissions de Monique Fauché.
Alors voilà, alors c'est très drôle parce que évidemment on comprend, on se rend compte aussi que tout est monté en épingle et en boucle, ça passe en boucle, des informations constamment, dès qu'il y a un drame ou même ça va être un mariage d'une quelconque princesse. Et puis on voit aussi que vous donnez des coups de patte ou de griffes à quelques personnalités. Évidemment, le philosophe télévisuel, c'est Bernard-Henri Lévy. Je pense, mais enfin, il ne faudrait peut-être pas donner de nom.
Oh non.
Parce qu'au demeurant, il est venu ici dans cette émission.
Oh, alors, ce n'est pas lui du tout.
Ah non,
hein,
non, parce
lui.
Qu'il était charmant. Et sa fille, qui est venue en tant qu'écrivain, elle, pas philosophe, encore plus charmante. Mais également, vous en prenez à Malraux, à un moment donné, entre ici. Bon, il est beau, son discours, quand même.
Oui,
Monique Taubière, il est beau, son discours. Entre ici, Jean Moulin.
À part me faire rire, là aussi, je trouve le thème, le sens est magnifique. Mais alors,
c'est le ton.
Oh là là, c'est pas possible. Eh
oui. Oui, c'est le
pas
ton.
Possible.
Mais le texte est très beau.
Ah, le texte est très beau,
et
certes.
Puis bon, Jean Moulin, oui, mérité quand même.
Oui, mais il ne méritait pas une telle...
une telle interprétation.
Voilà, oui.
Bon, alors... Également un écrivain, ou plutôt une écrivaine, si je peux me permettre, j'aime pas trop le mot écrivaine. Notos, vous avez dit Notos. Et là, on pourrait peut-être en parler de Notos, parce que c'est très drôle.
Ne me faites pas un procès d'intention, ce n'est qu'une histoire de jeu de mots.
Oui, j'ai bien compris.
Voilà,
j'ai
très bien
compris. Notos, vous avez dit Notos ? Notos, vent du sud tombé dans un obscur anonymat, souffrait de ne plus être dans le vent. En effet, qui de nos jours se souvenait encore de son nom ? Parmi ses conscrits, seul cet idiot de Zéphyr, à jamais inapte à décorner le moindre bovidé, jouissait d'un brin de notoriété. Alors que faire pour que le vent tourne en sa faveur, sinon aller dans son sens ? Il pensa se lancer dans le cheveu et coiffer de tramontane la tête des people ravis de croire qu'il le valait bien. Non. Mieux encore, il serait écrivain et son patronyme s'étalerait à longueur de jaquettes de livres. Dans la foulée, il torcha une palanquée de manuscrits. Oh, pas des chefs-d'œuvre, de la veine d'autant en emporte le vent, mais des pelletées de mots et de phrases plaisantes à la tartufferie des snobs. Du vent, en somme. Et il devint célébrissime. Comment ? Vous ne connaissez pas Amélie Notos ? Elle est venue ici aussi, à votre place.
Oui, mais là, ce n'est qu'un jeu de mots. Elle serait appelée Amélie du genou, ça tombait sur quelqu'un d'autre.
Alors voilà, et même le mystère de la Joconde, qu'est-ce que vous lui avez fait à cette Joconde ?
Ah, c'est elle, je la trouve moche. Oui, puis d'autant plus, franchement...
Je ne vous donne pas tout à fait tort.
Oui, tout le chef-d'œuvre, c'est vraiment un truc fantastique. Et, alors que j'ai appris... que c'était un tableau qui est devenu célèbre parce qu'il a été volé. Il n'était même pas exposé.
Oui.
Il était caché dans quelques resserres. On l'a volé, ça a fait toute une histoire. Et hop,
oui. C'est vrai que ce n'est pas une beauté telle qu'on l'imaginerait. C'est peut-être le sourire. D'après certains peintres, c'est un sourire très difficile à obtenir.
Ben, j'ai l'impression, c'est ce qu'on disait, mais je crois qu'il y a des peintres qui ont réussi à l'imiter.
Oui.
Oui. Franchement, je trouve que c'est très surfait.
Oui.
Non, franchement, je ne voudrais pas de ce tableau dans ma cuisine.
Ne parlons plus de la Joconde. Mais en revanche, nous allons écouter un tout petit peu de musique et c'est votre choix. Alors, il s'agit de qui et de quoi ?
De Sarah Vaughan. Et comme mon accent anglais n'est pas terrible, eh ben, je ne vous donnerai pas le titre.
Nous l'écoutons, en tout cas. Voilà.
What a difference a day made. 24 little hours brought the sun and the flowers where they used to be red. My yesterdays were blue, dear. Today I'm part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you.
Voilà, merci Monique Thomière de nous avoir fait ce cadeau d'une voix magnifique. Sarah Vaughan, bien connue, et avec du rythme aussi. Hein, de la, bon, comme vos textes finalement, il y a du rythme.
Tout à fait.
Il y a du rythme. Alors, on a parlé des jeux de mots, de la satire sociale. On peut parler aussi d'une forme de surréalisme. Alors, je vais vous donner la définition, les principes du surréalisme suivant André Breton. L'expression de l'inconscient, le rôle du hasard des associations fortuites dans la création artistique, le refus de catégories esthétiques traditionnelles, l'art comme instrument de libération et de révolution. Vous êtes dans le droit fil du surréalisme.
C'est une excellente définition de la liberté totale. On fait ce qu'on veut, comme ça nous plaît, et tout le monde se croit obligé d'être content.
Voilà, oui. Donc c'est une définition. Bon, on ne peut pas remettre en doute quand même les qualités d'André Breton quant au surréalisme.
Que nanny.
Alors, pour le surréalisme, j'avais trouvé, parce qu'il y en a plusieurs, évidemment, qui font appel à des notions de surréalisme, mais je pense à la liberté ou l'amidon. Alors, ça, c'est à la page 85. Chère Monique Thomière, c'est peut-être à vous de lire.
La liberté ou l'amidon. Il n'y a pas d'heure pour s'envoler. Mais pour moi, c'était maintenant ou jamais. La dernière fois, j'ai supporté la lessive, au savon noir, sans adoucissant au rinçage. Alors pensez, la torture rituelle du repassage, au fer trop chaud, pour écraser la moindre de mes expressions. Le supplice de l'amidon pour parfaire l'anéantissement de mon pauvre être. ensuite et surtout, l'incarcération indigne dans une armoire surpeuplée, pliée en quatre, soumise à la promiscuité humiliante de moult camisoles résignées. C'était trop. J'ai explosé, crevant le toit de la maison, explosant les fenêtres dans un envol libératoire, au risque de finir en liquette en loque. Mais le souffle amical du vent a gonflé mes pans, faisant de moi une gigantesque voile qui s'était levée bien haut, au-dessus de ces méprisables petits humains que j'ai trop longtemps dû vêtir. Oui, par ce beau jour venteux, la chemise a rendu son tablier.
Voilà, j'ai beaucoup aimé les liquettes en loque. Hein. Mmh. Alors, expression de l'inconscient. Alors, effectivement, on retrouve votre goût de la liberté.
Oui, serais-je cette liquette ?
Oui.
Voilà la question.
Oui, voilà.
Eh bien, c'est vrai que quelquefois, quand la coupe est trop pleine...
Vous explosez.
On explose, oui, oui, oui. Quand trop, c'est trop, oui. Parce qu'une vie, j'allais dire, par transposition, une vie de liquette repassée, toujours pliée en quatre.
Oui, au même.
Bon, une vie de métro-boulot-dodo, un travail qu'on n'apprécie pas forcément, des chefs odieux... Certains oui. se reconnaîtront. Mais non, je plaisante, bien sûr.
Ils ne sont pas tous comme ça.
Que nenni. Non, 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 non. Enfin, pas tous. Enfin, bon. On
et alors, donc, ouais. donc, effectivement...
Oui, donc c'est pénible et il faut un exutoire. Eh bien, moi, j'ai trouvé l'écriture.
Voilà. Rôle du hasard des associations fortuites. On a parlé des jeux de mots, des associations. Et là-dedans, il y en a, bien entendu. Hein. Moi, les liquettes en loque, moi, ça me fait rire. Bon. Ouais. Refus de catégories esthétiques traditionnelles. On est là-dedans, tout
certes,
à fait.
Ouais, ouais, ouais.
Et art comme instrument de libération et des révolutions, à la limite, on revient à ce qu'on a dit précédemment, hein, ce besoin de ne pas être dans le conformisme, etc., hein, dans les dictats de l'art, de bon, la liberté.
Oui, c'est une façon de, ben d'être moi-même, en fait.
Oui.
De toute façon, les dogmes de l'art, je me sens bien incapable d'y satisfaire. Je me sens incapable, donc je suis moi-même, on prend ça pour de l'originalité, mais en fait c'est plutôt de l'incapacité, j'allais dire, à faire comme tout le monde.
Oui, mais finalement il y a des grands poètes qui ont fait comme vous, qui ont joué avec les mots, qui ont même des chanteurs tout à l'heure. Je croyais, ah non, on en parlera, je pense à Brassens, j'ai parlé de Raymond Devos, vous voyez, non, ne soyez pas trop modeste. Vous avez votre place dans ce monde du surréalisme.
Oh, oui.
Il y a également, moi j'ai trouvé également de la poésie. Alors, par exemple, surréalisme et poésie, l'armoire est pleine. L'armoire est pleine de linge, il y a même des rayons de lune que je peux déplier, sauf s'ils sont voilés. Allez donc redresser un rayon de lune voilé. C'est comme faire disparaître un faux pli d'origine sur un drap en rayonne, des faux courants en confection. Il ne reste plus qu'à ramener l'article au magasin. Évidemment, avec le rayon de lune, c'est plus coton, si je puis dire. Je m'y vois, s'il vous plaît, Madame la Lune, ces rapports au rayon qui n'est pas droit. Il faut bien le reconnaître, il est plus facile d'échanger un voile au rayon de la firme qu'un rayon voilé au firmament. D'un autre côté, le rayon voilé permet de mieux exploiter la force du vent. On avance bien mieux quand on a le vent dans les voiles, surtout si elles sont dépliées. Mais à trop déplier les voiles, prenez garde à ce que ne se vide l'armoire. Voilà, on entre dans la poésie, et très fréquemment dans votre ouvrage.
Oui, j'aime bien, ce sont les mots qui font des galipettes.
Oui.
Ils font ce qu'ils veulent, enfin, à condition que je sois d'accord.
Oui, voilà, quand même, vous êtes le maître d'œuvre.
Hein. Oui, mais enfin, on s'entend bien.
Oui.
Oui, ils font des galipettes, ils font du trampoline. Ils font un peu ce qu'ils veulent, au gré du moment. C'est-à-dire, je n'ai pas décidé, en début de texte, d'écrire ça. C'est venu. Puis, en réécrivant, j'ai rajouté quelques cabrioles.
Oui. Oui, oui. Et alors, de temps en temps, c'est carrément de la poésie. Là, j'étais un peu étonnée. Tout est perdu, comme la houle, l'océan assaille sans répli la roche de la falaise. Le vent inlassable repousse l'automne vieillissant. Les belles saisons, depuis longtemps balayées, ne restent que les regrets, dont l'hiver conquérant se repaît. Tes pauvres souvenirs s'accrochent en vain aux herbes qui ploient sous la bourrasque. Belle dame, ne guette plus l'horizon, il est vide des fantômes de ta jeunesse, et tes jours heureux par la tempête ont été emportés. Accepte ta triste réalité, tout est perdu, fort ton chapeau. Alors, rentre vite chez toi avant qu'il ne s'envole. Ah là, on est dans plein amont à part le chapeau, mais c'est de la poésie.
Certes, mais je m'en défends. Ah. C'est pourquoi j'ai rajouté l'histoire du chapeau à la fin pour...
Par pudeur.
Ben oui, pour détendre l'atmosphère, j'allais dire. Parce que là, on est dans... C'est quand même très nostalgique.
Oui. Oui, vous terminez par une pirouette.
Par une pirouette comme ça, bon, ben finalement, bon, allez, oui, ça, mais... je blaguais.
Oui, alors là, ouais, moi je pense que là, vous vous cachez un peu.
Un peu, oui.
Oui, oui. Ouais. Alors, oui, il y en a d'autres également. À un moment donné, il tournait le manège, le petit cheval blanc de manège en bois. C'est vraiment très, très, vraiment charmant. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai qu'au détour, on trouve une Monique Thomière qui quand même laisse passer autre chose tout aussi intéressant.
Oui, je suis assez nostalgique du passé.
Ouais.
Quand je reviens dans des endroits que j'ai connus enfant, que je reconnais quelque chose, j'allais dire que j'en suis toute retournée. Ça, ouais, ça a un petit côté ridicule. Bon, je n'en parle à personne. À qui pourrais-je le dire? On a peur d'être ridicule. Alors bon, ben, je le glisse dans une histoire et
voilà.
Puis je parle d'un chapeau qui s'envole à la fin.
Et ça peut être très poétique. La nostalgie, quand vous dites la nostalgie, effectivement, j'avais noté plusieurs endroits où il y a une forme de nostalgie. On va pas lire parce qu'on n'aura pas le temps de tout dire. Porte 4C ou 4D, ah ben oui, ça c'était le temps de... c'était en septembre 1939.
Voilà, oui.
Un temps que vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeune, évidemment. Alors, il y a cette nostalgie-là. Et puis, il y a également, page 113, vous évoquez un passé, souvenir. T'en souviens-tu, ami, du temps de nos 20 ans, quand les murs du grand salon résonnaient des réjouissances qui, chaque soir, concluaient nos journées de soleil et de mer. Voilà, nostalgie. Mais c'est bien de pouvoir mélanger, justement, les gens. La liberté, encore. Alors, revenons à quelque chose de plus ludique, le pastiche. Alors, écoutez, à un moment donné... moi, je vois que vous êtes une sorte de Jean de La Fontaine.
Ça mais coule oui. de source.
Oui, mais vous n'êtes pas l'agneau au bord de...
Certes.
Face au loup qui se désaltère. Par exemple, il y a la balade de la carpette et du paillasson. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Voyons. Vous en souvenez peut-être pas. Attendez, je vais vous dire.
Ah si, oui.
La carpette, elle est bête, le paillasson, il est bon, le tapis, c'est bien pis. Voici l'histoire morale et sans prétention d'une jolie carpette et d'un beau paillasson. Si bon garçon était de gentil paillasson, que bientôt la carpette en perdit la raison. C'est une sorte de fable et effectivement, c'est drôle et vous jouez encore une fois avec les mots. En revanche, l'enterrement de la Jeanne, moi, c'est pas à Jean de La Fontaine que j'ai pensé, mais à Georges Brassens.
Oui, je suis partie dans quelque chose d'un peu truculent. Enfin, qui est devenu truculent.
Oui, oui.
Alors, je suis partie d'une phrase, c'est ma mère qui avait dit ça. Une fois, elle disait, bon, quand je serai morte, je ne veux pas d'enterrement à l'église parce que ça enquiquine tout le monde. Par contre, comme je ne suis pas un chien, je veux un préchi-préchat. Et j'ai pris ça, je l'ai attribué à la Jeanne. Et de fil en aiguille, je lui ai fait un enterrement dont elle n'aurait pas osé rêver.
D'accord.
Et de fil en aiguille... Oui, c'est venu tout seul. Et puis, je me suis lâchée, après tout. notamment, bon...
Oui, alors c'est moqueur, c'est iconoclaste. Vous vous en prenez aux vieilles bigotes pas toujours bienveillantes, aux commissaires de police pas toujours très fins et efficaces. Mais c'est vrai qu'on rit, on rit. En revanche, là où on rit moins, c'est vrai que c'est une transposition du Dormeur du Val.
Oui.
C'est l'histoire du hérisson. Page 97, vous croyez qu'on a le temps de le lire?
Parfois.
Peut-être pas. 6 minutes, oui, peut-être un tout petit peu, oui. Alors, le dormeur du Val, eh bien, le dormeur, ce n'est plus celui que l'on connaît.
Voilà, c'est un gentil hérisson. Le dormeur du talus. Ces trois fois rien de verdure, où la libellule légère papillonne du rouge au violet des fleurs d'été. Carré de nature, où la vie pullule, libre, c'est un petit talus où vit le bonheur. Un gentil hérisson, aux 12 yeux d'automne, la tête baignant dans la rosée du matin, dort. Il est sourd aux carillons qui résonnent, paisible sur sa couche, aux éclats de satin. Son ventre de velours dans le trèfle, serein, il dort, comme s'il avait quitté tout chagrin. Brise aimable, veille bien sur son léger sommeil. Les parfums lui sont désormais indifférents. Il dort dans le soleil, le corps sans mouvement. Tranquille, il a une trace de pneu sur le côté droit.
Voilà, et oui, c'est une forme de dormeur du Val. Alors, quelque chose, on le sent toujours pointé, cet humour qui est noir, parfois. Alors, il paraît, j'avais lu ça, apprécier l'humour noir irait de pair avec un QI élevé, une faible agressivité et une bonne humeur, selon les scientifiques.
C'est tout à fait vrai. Je me reconnais absolument dans cette définition. 100%.
Tout à fait vrai. Alors, l'humour parfois très noir, très très noir. Par exemple, l'être d'une femme en manque d'occupation. Alors là, je ne sais pas si on va avoir le temps de lire, mais quand même, j'aimerais qu'on en parle. Parce que, mon cher Helmut, je sens que tu ne me fais plus confiance depuis que je t'ai livré au maquisard. Mais tu as réussi à leur fausser compagnie, alors c'est comme si je n'avais rien fait, non ? Et puis c'était pour me couvrir. Alors, au diable cet acharnement à ne pas vouloir me croire quand je te dis qu'il y a plus de 60 ans que la guerre est finie. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus jamais te mentir. C'est donc dans le seul souci de ne pas te peiner que je tairai le nom des vainqueurs. Helmut, ton doux visage que je n'ai pas revu depuis 60 ans est toujours gravé dans ma mémoire. Et toi, tendre teuton, t'en souviens-tu de ta marinette et de notre première rencontre ? Tu étais planton à la commandante Tour et tu m'as gentiment orienté vers l'officier de la Gestapo que je venais visiter. Un homme charmant à qui, à tes moments perdus, tu prêtais la main pour interroger les contrevenants. Ah, ce temps béni de l'insouciance, sois-en assuré, je t'aime toujours. Aussi, je t'en conjure, accepte enfin de quitter ta planque dans la forêt. Tu ne vas quand même pas nous jouer papy fée de la résistance jusqu'à la fin des temps. D'autant plus que la résistance, ça n'a jamais été vraiment ton créneau. Ce n'est pas un reproche, bien sûr, et à ce sujet, sache que le réseau Fritz Fritz ne te traque plus. D'autant plus que tous ses membres ont passé la main gauche. Alors tu penses. Je t'attends, mon doux Helmut, à l'endroit où tu sais, celui de nos plus délectables rendez-vous à l'ombre des tilleuls odorants, là où nous avons enfoui le corps de mon fiancé après que je te l'ai égorgé. Que tu l'aies égorgé. Helmut, nous n'avons même pas 100 ans et rien ne s'oppose plus à ce que nous croquions la vie à pleines gencives. Signé, Marinette l'a tendue. Ah ! Alors là, c'est vraiment de l'humour très très noir. Et je me dis, on rit jaune, mais on rit. Et puis on se dit, mais finalement, vu comme ça, parce que tout ça, ça existait.
Effectivement, oui. Ce sont des monstres décrits avec légèreté.
Voilà. Et alors, ça a d'autant plus, c'est d'autant plus percutant, parce qu'il y a un recul. On regarde, on se dit, oui, finalement, ces gens avaient un cynisme, une inconscience, une cruauté exorbitante. Alors finalement, on écoute ça, on rit. On rit, mais pas tout à fait. On rit, oui, quand elle signe la tendue. Mais finalement, on se dit, ben, c'est ça. Vu avec la distance, le recul, il aurait fallu leur montrer, peut-être. Est-ce qu'ils se seraient reconnus ?
Peut-être pas, parce que j'imagine que le nazi faisait ça par devoir ou parce qu'on lui demandait de le faire.
Et puis, il y a une faculté à oublier, oui. À s'absoudre, qui est assez fréquente.
Oui, c'est vrai. En fait, bon... Bien sûr, si on nous donnait signer un contrat, bon, vous allez torturer, vous allez assassiner. Oh que non. Mais bon, on y est.
Oui.
Bon, ben.
On dénonce, on.
Oui, ça se fait tout seul, disons. Oui. On n'a pas vraiment décidé.
Oui. En tout cas, elle est percutante, cette nouvelle. C'est vrai que c'est de l'humour noir, mais là, voilà, ça nous renvoie à une époque dont on a parlé, puisque Simone Veil vient de mourir, et on se dit, mais oui, ça a existé, des gens comme ça. Voilà, donc aussi, en rapport avec une triste réalité, vous avez opté pour des nouvelles. Pourquoi, Monique Thomière ?
Je dirais, c'est venu tout seul. J'aime les textes courts. Bon, à la limite, vous parlez de nouvelles, bon, je dirais des histoires, de courtes histoires. Bon, sauf quelques textes un peu plus longs. Mais c'est vrai, je trouve que ça se suffit. Ça se suffit. On fait le tour de la question. Quoiqu'une amie m'a dit, tu me laisses sur ma faim.
Mais il faut.
Après tout, oui.
Voilà, alors... je ne sais plus, ça aussi, qui a dit « La nouvelle est comme un portrait, une esquisse, et le lecteur en a une vision fugitive. » Et peut-être qu'en effet, on a envie que vous continuez. Voilà, sans doute même.
Je m'y engage.
Monique Thomière, un grand merci. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de l'ouvrage intitulé « Le sans-dessus-dessous des apparences » aux éditions Hazard Atelier. Un grand merci.
C'est moi qui vous remercie.